Bienvenue à La Barre Haute, le podcast où on explore les récits inspirants, les stratégies de performance et les conseils pratiques pour atteindre nos objectifs. Je suis Michael Cyr, kinésiologue, et c'est avec un grand plaisir que je vous partage l'épisode d'aujourd'hui. Avec Sarah Baribeau, que j'avais d'ailleurs reçue une première fois il y a quelques temps au podcast, nous avons poursuivi notre discussion sur la forme physique et la santé de la femme. Nous sommes revenus surtout sur le postpartum, nous avons continué aussi avec l'athlète féminine et nous avons élaboré quelques points par rapport à la préménopause. Pour rappel, Sarah est kinésiologue et possède une maîtrise en lien avec son expertise de la périnatalité. Elle est fondatrice et présidente de Bougeotte et Placotine, une entreprise franchisée dont, comme nous avions dit dans le précédent épisode avec Sarah, le but est donc d'offrir un service de kinésiologie et de formation spécialisée pour les nouvelles mamans et la clientèle féminine générale. Je vous souhaite donc bonne écoute et abonnez-vous sur Instagram et Facebook pour rester à jour sur les nouveautés du podcast. On est maintenant rendu à partie 2, c'est le fun. Donc là, merci Sarah toujours qu'on puisse faire notre deuxième partie. Puis je voulais comme la même chose pour la première fois, ben, comment ça va? Comment a été ta journée? As-tu passé une belle fin de semaine? Donc,
oui, vraiment, vraiment belle fin de semaine. Merci de demander. En fait, nous autres, on est vraiment dans les activités sportives de nos enfants. Là, je suis comme rendue là dans ma vie. Donc là, en fin de semaine, c'était une fin de semaine qu'on avait juste une pratique de soccer puis un entraînement de ski de fond. Fait que j'ai eu du temps pour bouger avant que la pluie arrive.
OK. Non, vous avez déjà des pratiques de soccer l'hiver?
C'est vrai? C'est notre faute un petit peu. Là, quand on commence à... C'est sûr que moi, mon chum est prof d'édu. Moi, je suis kinésiologue. Fait que c'est sûr que l'activité physique fait partie de nos vies et de celle de nos enfants. Fait que ben là, on est rendu ma grande à l'âge de... des camps de sélection pour les équipes 3A, puis toutes ces choses-là. Fait que oui, déjà commencé depuis un mois là, les sélections pour la saison estivale. Okay. Ouais.
Donc, si je comprends, elle veut suivre les traces de sa mère dans le 3A, mais dans le volet soccer plus que basketball.
Ouais.
Donc, il est à moitié du chemin de fait.
Oui, en fait, c'est parfait. Son sport, c'est à elle. Puis, dans nos schémas physiques et de grandeur, je trouve que là, le soccer, c'est peut-être plus winner que le basket pour elle.
OK. Donc, aujourd'hui, on s'était planifié, entre autres, parce qu'il y avait beaucoup d'informations qui n'ont pas été dites par rapport à la santé de la femme. On a quand même exploré ensemble une grande partie de ce qui est la femme et la grossesse versus être active ou pas. C'est un petit peu du postpartum.
Oui.
Mais tu sais, il y a tellement de choses à mentionner aussi dans ce domaine-là. Tu sais, moi, le plus loin que j'ai fait dans mon cursus, c'était le cours d'alimentation fonctionnelle, puis j'avais une section pour les femmes. Dans le fond, c'était l'alimentation chez les femmes. Donc, tu sais, j'avais quand même beaucoup d'éléments à ce niveau-là. Mais tu sais, c'est quand même assez vague parce que veux pas, c'est un cursus, un diplôme d'études supérieures spécialisées. C'est pas un bac, c'est pas un doctorat. Donc, il y a beaucoup d'informations qui manquent aussi. Donc, c'est toujours apprécié d'avoir une professionnelle avec nous, justement, pour discuter un petit peu plus de ces choses-là, surtout que c'est pas mon domaine de prédilection, étant donné que moi, je suis un gars. Donc, tu sais, tout ce qui revient à santé féminine, ça me rejoint. Pas que ça me rejoint moins, mais ça me concerne moins, disons.
Oui.
OK. Donc nous, tu sais, toi, t'es athlète féminine quand même au niveau de la course à pied, des ultra-trails, tu l'as mentionné. Puis j'avais une question quand même assez rapide à ce sujet-là. C'est surtout faire, c'est quoi un petit peu, pas les recommandations, mais il y a sûrement des parallèles à faire entre l'athlète en général versus une personne qui est sédentaire. Il doit quand même avoir des choses dans le corps qui peut différer des fois si jamais tu pousses un peu trop en tant qu'athlète, disons.
Bien, je peux en parler un petit peu prénatal, un peu postnatal, mettons un peu enceinte puis un peu postnatal par rapport aux athlètes?
Ben oui. Leur choix-là, c'est pas de problème.
Dans le fond, par rapport aux femmes enceintes, athlètes, là, puis tu sais, je veux vraiment, quand je parle d'athlètes, je me considère pas comme ce type d'athlète-là. Là, OK? Mettons, je vais parler des athlètes niveau olympique. T'sais. Bien entendu, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites parce qu'au niveau point de vue éthique, on ne peut pas pousser les femmes. Puis bon. Donc, il y a quand même des études qui ont été faites pour, tu sais, de façon comme observationnelle, là, si je peux dire, qualitative, pour voir c'était quoi, qu'est-ce que les femmes enceintes faisaient durant leur grossesse. Fait que, il y a comme eu deux études en particulier, là, une qui était autant enceinte, puis ça s'est passé vers le postpartum, c'était des coureuses, puis on les avait mis sur tapis roulant, puis c'était assez spécifique, tu sais, on regardait là, s'ils atteignaient justement là, 90% de la fréquence cardiaque maximale, puis c'est là, peut-être qu'on en a parlé à l'autre épisode, mais c'est là qu'on voyait là, qu'au-delà de 90% de la fréquence cardiaque maximale, là, l'influx sanguin au niveau de l'utérus pouvait être diminué, mais qu'une fois là, que c'était arrêté, c'était rétabli. Fait que, tu sais, on le sait quand même de ne pas aller dans ces eaux-là. Mais il y a eu justement une étude qualitative qui a été faite pour juste observer là, des athlètes de très haut niveau, là, qui étaient des athlètes de championnat du monde, des coureuses là, ou des Jeux olympiques et tout ça. Puis, ils observaient juste comme de façon un peu intuitive qu'est-ce qu'elles faisaient, ces femmes-là. Puis, durant la grossesse, tu sais, ils avaient remarqué qu'il y avait une diminution de l'intensité des entraînements. Ils faisaient beaucoup de cross-training. Et vraiment par elle-même, parce que bien entendu, il y a le côté rationnel, mais il y a comment la femme se sent finalement là, avec tous ses symptômes de grossesse, son énergie, ses craintes aussi là, personnelles, son vécu. Puis vraiment, il y avait une diminution là, au niveau des entraînements d'intensité et du volume global d'entraînement par elle-même, mais beaucoup de cross-training, la musculation et tout ça. Puis dans le spot, le postpartum qui était quand même bien accompagné là aussi, il y avait un retour qui se faisait quand même rapidement, mais il avait couru la plupart là, jusqu'à la fin de leur grossesse. Donc, bien entendu, ils étaient encore en forme, quand même en forme dans le postnatal. Ils ont été suivis, puis par la suite, à peu près 3 mois postpartum, ils revenaient à un semblant de volume ce qu'ils faisaient avant. Puis, il y en a plusieurs un an plus tard qui avaient dépassé leur record, là, tu sais, leur PR, là, qui avaient atteint leur... qui avaient dépassé finalement leur meilleur temps, tu sais, leur performance. Okay. Fait que, tu sais, je pense pas qu'on va aller plus loin. J'espère qu'on n'ira pas plus loin. Parce que je pense qu'à un moment donné, une femme a le droit de vivre entièrement une grossesse et un postpartum et que la vie ne tourne pas juste autour de performances sportives. Okay. Tu sais, je pense qu'il faut laisser de la place à l'intuition de la mère. Puis je pense qu'à un moment donné, c'est pas des robots qui ont un bébé qui pousse dans leur ventre. Tu sais, c'est des humains qui sont remplis d'émotions, qui ont des vécus. Puis je pense que c'est important de les guider là-dedans. De leur dire justement, tu sais, de peut-être suivre de plus près au niveau du bébé, au niveau de leurs conditions, mais il faut que la mère, elle a encore un gros pourcentage décisionnel au-delà de ce qui est rationnel. Tu sais, fait que je pense qu'une fois qu'elle est éduquée, elle va elle-même se guider. Puis, tu sais, ça, les athlètes professionnels, là, ils ont du soutien, là, beaucoup, beaucoup, là, en postnatal. Fait que encore une fois, on n'a pas des règles très précises, mais ce que je trouve intéressant, c'est de dire on peut faire confiance à l'athlète, la femme, mère, athlète, que son intuition et son expérience va quand même la guider. T'sais.
OK. Est-ce que tu es d'accord avec moi par contre, c'est dans un passif d'athlète que c'est quand même touché au niveau mental, au niveau de la santé mentale, dans le sens que tu sais. Là, si on donne l'exemple d'un athlète olympique, comme tu l'as mentionné dans les très hauts athlètes, il y a quand même beaucoup un niveau de stress, de performance aussi, donc un stress de performer. Puis est-ce que tu dois, je ne sais pas si tu l'as déjà côtoyé, mais tu sais, ce sentiment-là justement que des fois qui ont peut-être la difficulté à gérer ça, puis que ça se ressent beaucoup dans leur grossesse ou en postpartum. Tu mentionnais tantôt justement que ça leur a pris 3 mois avant de revenir tranquillement à des charges normales.
Oui.
Puis après ça, on bâtit des records. Tu sais, est-ce que ça t'arrive à... Comment tu peux, disons, expliquer ou plutôt sensibiliser ces femmes-là à justement prendre le temps de s'écouter puis prendre le temps de justement prendre soin d'eux et de leur bébé à venir?
Je trouve ça super intéressant parce que, dans le fond, il faut vraiment faire la différence entre une athlète amateur et une athlète olympique. Puis, je pense que celles qui ont les plus gros défis, c'est des athlètes amateurs parce que je pense que des athlètes olympiques qui ont vraiment du soutien aussi psychologique, ils se connaissent, tu sais, beaucoup, c'est leur emploi presque à temps plein. Tu sais, ils ont vraiment beaucoup développé d'outils pour la gestion du stress, la performance, prendre du recul. J'ai beaucoup d'athlètes amateurs qui vont m'écrire. Et il y en a beaucoup qui vont performer, mettons, à un niveau provincial. Puis là, ça va les stresser parce que là, ils ont atteint des performances qu'ils ne veulent peut-être pas, justement, perdre. Et celles-là, des fois, vont aller trop vite. Puis ils vont avoir comme une paire de lunettes là, où toute leur vie tourne autour de ça, là, de la performance. Puis, ben, tu sais, je dirais que le seul conseil que je pourrais donner, surtout celle que c'est un premier bébé, c'est faux. Ben, je ne vais pas dire faux, là, parce que c'est pas un verbe qui est le fun, là, mais je conseille de vivre entièrement la grossesse comme on le souhaite, là, tu sais, parce que on n'en a pas beaucoup de grossesses dans notre vie, puis c'est vraiment un moment exceptionnel, même avec les défis, là, c'est pas tout le temps beau, là, mais tu sais, c'est quand même précieux de le vivre et de faire confiance à leur corps qu'elles vont retourner après, quand elles vont être prêtes, en faisant des petits efforts, comme n'importe quelle personne qui se met à courir, tu sais, il va avoir du fractionné, il va avoir des périodes de repos qui vont être peut-être écourtées au début, puis ils vont bâtir sur du long terme et ça va finir par revenir, certaines plus vite, mais ça sert à rien, tu sais, ça sert à rien de tirer sa fleur. Il faut la nourrir, à un moment donné, c'est d'être patiente, puis de faire vraiment confiance qu'elles ne vont pas toutes perdre. C'est ça aussi, le corps, il y a une mémoire, là. C'est pas pour rien que les femmes, les athlètes olympiennes, par exemple, battent leur record. C'est qu'ils n'ont pas recommencé à zéro, là. Ils sont repartis de plus loin et le mental est probablement devenu plus fort qu'avant. Parce qu'une mère, quand elle va s'entraîner... Après avoir eu un bébé, c'est tellement un moment pour toi. Tu sais, c'est vraiment privilégié comme moment. Là. C'est ton moment libre dans ta journée pour t'entraîner. Fait qu'il y a comme un focus qui s'en vient un petit peu plus là-dedans. J'ai tellement d'exemples de coureuses amateurs, mères qui performent aujourd'hui. Là. C'est vraiment, c'est ça. Juste d'être indulgente envers soi-même puis de faire confiance à son corps que ça va revenir, qu'elles peuvent ralentir durant la grossesse puis prendre leur temps postpartum.
OK. Moi, ce que tu as dit ça m'a vraiment comme stické un peu en parenthèse, que tu m'as dit que c'est vraiment les athlètes amateurs qui sont plus touchés par ça. Est-ce que, mettons, quand tu considères athlète amateur, est-ce que tu parles, mettons, l'athlète du dimanche qui a fait ses petites affaires puis des fois fait des petites compétitions pour le plaisir?
Non, je parle des top vraiment... 10, là, dans les courses de trail.
OK, le top 10, ça, c'est pas, mettons, c'est un peu un entre-deux entre l'athlète du dimanche versus l'athlète olympique. Là. C'est ces personnes-là, c'est ça que je comprends. OK.
Ouais, tu sais, les performantes, celles qui aiment performer, bien entendu, tu sais, qui visent les top 10, qui veulent performer, mais que c'est provincial, là, ou peut-être international, mais tu sais, c'est pas les athlètes olympiques, là, tu sais. Donc, aussi, c'est pas leur emploi du temps en temps plein, là, s'entraîner. Mm-hmm. Versus un athlète olympique.
Ouais. Est-ce que ça t'arrive d'avoir est-ce que ça t'arrive aussi d'avoir ce genre de situation-là avec, admettons, du monde un peu plus casual, mais plus un peu plus relax, qui font plus leur entraînement parce qu'ils savent que ça fait du bien de sortir un peu? Est-ce que des fois, il faut que j'arrête, puis je vais recommencer tout de suite après que le bébé est sorti? Tu sais,
c'est ça. J'ai l'impression qu'ils sont peut-être... La coureuse du dimanche se met moins de pression sur la performance. Elle le fait, elle, pour des raisons qui sont différentes. Elle le fait, ces athlètes-là parce qu'elles savent que ça leur fait du bien. Elles sont peut-être capables de relativiser un petit peu plus. Elles sont moins dans le profil, tu sais, performance. Là.
OK. Parce que, tu sais, moi, les situations, moi, j'ai souvent dans ma carrière, c'est surtout des personnes qui ont arrêté complètement. Puis des fois, pas complètement, mais tu sais, qui ont plus de difficultés à recommencer suite à leur grossesse parce que des fois, c'est des raisons comme, tu sais, je vais être là à plein temps pour mon enfant, puis tu sais, je me sens très mal d'aller bouger. Des fois, tu sais, les services permettent aussi qu'on peut faire ça avec ton enfant, puis c'est parfait aussi, mais des fois, il y a des moments, comme tu peux peut-être pousser un peu là-dessus, que c'est important de prendre vraiment ce moment pour soi, pour garder un peu une santé mentale qui soit, disons, assez forte pour que par la suite, tu as de quoi à faire ou avec un enfant, ou plutôt que là, tu retournes avec ton rôle de maman, là, tu vas être plus outillée ou bien plus prête mentalement pour la suite.
Écoute, j'aurais tellement long à dire là-dessus. La semaine dernière, je donnais un cours, justement. Puis là, j'ai dit aux filles, bon, là, je suis rendue votre preacher. Parce que c'est rendu plus la psychologie que d'autres choses. Mais je disais, tu sais, c'est vraiment difficile pour une nouvelle maman de prendre du temps pour elle sans se sentir coupable. Puis moi, j'essaie vraiment de dire, tu sais, dans le fond, tout le monde le sait, mais c'est difficile à appliquer. Tu sais, on le sait qu'une maman qui prend du temps pour elle, puis moi, j'ai beaucoup de clientes qui ont besoin de prendre du temps pour elle, tu sais, qu'avant d'être enceinte, elles couraient, elles s'entraînaient par elles-mêmes, elles avaient leur moment par jour ou par semaine, ou plusieurs fois par semaine, pour être dans leur tête, écouter leur musique, réfléchir, tu sais, prendre du temps. Et là, ils ont le bébé, et là, c'est comme si elles s'enfoncent tranquillement. Là. J'en vois là, des débuts de postpartum, là, de dépression, parce que elles ne sont pas capables de donner un espace à leur bébé. Fait que justement, je leur disais, tu sais, j'étais comme, tu sais, dans la vie, là, les filles, là, ça prend du temps en couple, ça prend du temps en famille, mais ça prend du temps aussi. Ben, peut-être les amis, là, des fois, un petit peu moins là, important, mais tu sais, et ça prend du temps pour soi. Puis je suis comme, ça, là, c'est autant pour votre chum blonde que pour vous, là. Tu sais, fait que c'est, vous avez comme, là, vous avez le droit là, de dire, tu sais, bon, là, j'allais de bébé, je le donne à mon chum, puis je m'en vais monter la montagne, mettons, toute seule pendant une heure, là. Tu sais, c'est, puis l'autre chose que je leur dis, c'est, faites confiance, là. Qui a dit que le bébé fallait qu'il soit 100% du temps avec la mère? Qui a dit que c'était le mieux pour l'enfant? Fait que, tu sais, il n'y a pas de place à la culpabilité, mais en effet, c'est un enjeu. Tu sais, nous, chez Bougeotte, les mères viennent avec le bébé parce qu'on veut justement qu'elles s'habituent et qu'elles apprécient le fait de prendre du temps pour elles. Tu sais, puis là, oui, le bébé est là, mais là, elle développe vraiment une belle relation en disant « Hey, Chris, c'est normal, faut me bouger. » Là, c'est comme, ah, mais peut-être dans ma semaine, je pourrais y aller par moi-même, je pourrais y aller tout seul. Tu sais, à un moment donné, c'est l'équilibre mental. Mais en effet, c'est pas inné. On dirait qu'il y a quelque chose là, dans la fusion, surtout avec le nouveau-né, où la mère se sent très, très, très coupable. Fait que je peux comprendre que des athlètes encore moins performants diraient, hey, moi, là, j'ai atteint un niveau d'activité physique. Il va falloir que tu sais, je recommence vite aussi en postnatal pour ne pas perdre mes saines habitudes et tout ça. Mais ce que je pourrais dire, c'est que tu sais, le postnatal immédiat, il y a plein de choses qu'on peut faire. Tu sais, il y a plein de choses qu'on ne veut pas faire trop tôt, mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Là, nous, on a créé un programme retour à la marche, tu sais, pour inciter les mamans de prendre des marches tous les jours. Tu sais, juste ça, c'est un début d'être proactive dans sa remise en forme. Et ça, on n'est pas obligé d'attendre 3 mois avant de faire ça. Là.
OK. Puis comment vous fonctionnez pour justement, est-ce que vous offrez des fois des formations plutôt pour les nouvelles mamans ou les mamans pour deuxième, troisième fois, justement sur mettons, leur santé à eux, santé mentale, justement, comment se décharger un petit peu de cette tâche-là? Est-ce que vous offrez de quoi, un genre de guide ou plutôt des suivis pour permettre à ces femmes-là comment poser la question?
Je pense que ça se fait de façon organique, nous, dans l'expérience Bougeotte. T'sais, souvent, on dit, tout le monde dit, ah, Bougeotte, là, c'est des spécialistes au niveau de l'activité physique, mais on aurait pu aussi juste être en ligne. Puis je pourrais juste faire des guides d'entraînement. Mais l'expérience Bougeotte et Placotine, c'est de ramasser des mères qui viennent d'accoucher. Fait que, notre cours premier pas de maman là, que j'ai créé en sortant de ma maîtrise, c'est le premier cours que j'ai créé. Puis j'étais comme, hey, on ne sent pas de bon sens que la mère accouche, puis elle ne sait même pas ce qui s'est passé dans son corps. T'sais. Donc, durant ce cours-là, on a, mettons, entre 8 et 10 mamans qui ont accouché il y a entre 2 et 10 semaines en moyenne. Et là, le premier cours, c'est 35 minutes de théorie pour leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans leur corps. Et là, chaque maman raconte son accouchement, puis on lui pose des questions sur sa pratique d'activité physique et tout ça.
Okay.
Puis dans la discussion, puis dans les discussions pendant les 8 semaines entre les mères, avec l'entraîneur, ça, c'est comme si ça vient de façon organique de s'encourager à prendre du temps pour soi, à créer un club de marche ici, un club éventuellement de course, des baby days, tu sais, donc, il y a comme des échanges qui se font naturellement entre mères et avec l'entraîneur, sans leur dire quoi faire, de se poser des questions, puis que la nouvelle maman parle à celle qui a 3 enfants, mettons, puis elle dit « OK, ah ouais, toi, tu fais ça, mettons, OK, on peut se faire une fin de semaine de filles sans bébé, ben oui, là, tu fais ça, tu sais, c'est... » Fait que je pense que juste de rassembler des femmes qui vivent la même chose entre elles, ça encourage finalement à réfléchir parce que je pense pas que c'est la même recette pour chaque nouvelle maman. Tu sais, au niveau de sa gestion du temps, tu sais, ça dépend aussi, genre, Puis l'autre chose que je pourrais dire, c'est oui, on en offre des ateliers. J'avais offert un atelier justement à Pont-Rouge, à la succursale, qui s'appelait un peu là, tu sais, l'équilibre de vie. Là, tu sais, puis il faudrait que je le redonne cet atelier-là, mais mon objectif dans l'atelier, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui, avant d'avoir un bébé, vous rendait vraiment heureuse? Tu sais, qu'est-ce qui était votre moment à vous? Puis là, c'est de réfléchir à comment le réintégrer même avec un bébé, puis comment le mettre à l'agenda, puis comment rentrer son conjoint là-dedans, dans ce projet-là, de dire j'ai besoin. Puis il y en a que c'était de la peinture, là, tu sais, c'était pas nécessairement l'activité physique, mais tu sais, c'est pas parce que tu es une mère que tu n'as plus le droit d'avoir des loisirs et des passions, là, tu sais.
OK. C'est ce que j'entends, c'est que c'est vraiment bouger ta placotine beaucoup plus vaste que seulement la remise en forme aussi, là.
Tellement.
C'est beaucoup, l'accompagnement. C'est une communauté. Puis c'est ça que je trouve super intéressant dans votre approche, parce que tu sais, tu as des services que tu donnes quand même assez variés. Tu as quand même beaucoup, mm-hmm. beaucoup de professionnels qui sont là pour appuyer justement dans les différentes ouais. franchises. Tu as juste
on
la
donne
zone.
Des ateliers sur différents ouais. sujets dans le développement de l'enfant, là, par exemple, ou le couple, ou les coprénataux. Ouais.
OK. OK. Ouais. Puis en plus, juste l'environnement. T'sais, de ce que j'ai vu vu qu'on n'est pas à côté, là, mais de ce que j'ai vu dans l'environnement, c'est quand même de quoi qui est vraiment casual en disant en guillemets, juste pour dire que c'est une zone de retraite pour la mère.
Oui, on dit c'est un safe place, là. Nous autres. C'est nous, ça. C'est vraiment. Pour vrai, là, il y a un article dans le journal l'autre fois, puis ils ont dit ça, mais je disais avant d'ouvrir, j'étais comme ça va être ma taverne de femme. J'étais comme. Mais aujourd'hui, on n'utilise plus ces termes-là. On dit plus, c'est comme le refuge. T'sais, on dit, oui. Pour moi, c'était comme dans l'image, en fait, dans l'histoire de la santé de la femme, dans le temps, il y avait l'accoucheuse du village. Puis l'accoucheuse du village, mais quand tu allais
l'accoucheuse.
C'était vraiment ça, tu allais chez l'accoucheuse, puis c'est l'ancêtre de la sage-femme, finalement. Là. C'est juste que je ne rentrerai pas dans l'histoire de la santé de la femme, mais c'est plate parce qu'il y a bien des choses qu'on a perdues. Mais il y avait vraiment la coucheuse du village. Et il y avait les femmes, les mères qui étaient déjà mères, qui allaient prendre soin de la femme qui allait accoucher. Ça, c'est avant que la médecine traditionnelle arrive. Puis c'était comme cet espace-là de safe place. On dit aujourd'hui, ça prend un village pour supporter une mère. Là. C'est un peu notre nouveau slogan. Mmh. Bien, c'était un peu ça, l'idée de bouger, c'est de dire... Bien, là, la mère, elle a le droit à venir, poquer jusque-là, tu sais, elle n'a pas dormi, peu importe, mais c'est un safe place. Elle vient, puis elle est supportée par d'autres femmes, puis elle l'échange. Mm-hmm. Puis, tu sais, je trouve que c'est encore plus important dans notre ère de médias sociaux où la mère peut prendre Instagram et penser que 100% de la vie des autres mères est parfaite. Tu sais, c'est pas ça, ouais. la réalité, là. Tout le monde rush. Tout le monde rush. Donc, c'est ça. Fait que bougeotte, oui, c'est ça. C'est vraiment plus gros que de l'entraînement préposental. C'est juste que moi, j'ai un esprit super scientifique. Puis, tu sais, pour moi, c'était comme aussi à la base, c'est de donner de l'information valide aux femmes. Tu sais, c'est comme, tu as le droit de savoir ce qui s'est passé dans ton corps, puis de pas être pogné avec des problèmes le reste de ta vie parce que tu as décidé d'être une mère, là, tu sais.
T'sais, c'est important de se connaître aussi, puis de connaître les études, puis les informations qui sont valides, vérifiées.
Oui.
Je t'ai entendu dire que vous faites aussi les couples. Pourrais-tu expliquer un peu de quelle manière ouais. ou c'est quoi votre approche par rapport à ça?
Bien, tu sais, nous, dans le fond, moi, je suis quand même passionnée de l'accouchement. Fait que, tu sais, pour nous, c'est important. Ça fait, tu sais, à Québec, ça fait 12 ans qu'on existe presque, puis ça fait faire 12 ans qu'on a les mêmes accompagnantes à la naissance qui donnent des cours prénataux. Puis, tu sais, l'objectif, nous, c'est de préparer les couples dans la préparation à l'accouchement, mais on a des ateliers aussi de préparation à l'accouchement en couple. Puis c'est vraiment de supporter le couple pour dire, dans le fond, c'est une équipe, là, on fait un bébé à deux, fait qu'il faut l'accoucher à deux aussi, puis de donner des outils, justement, au père ou à la conjointe, peu importe, pour dire qu'est-ce que tu peux faire, c'est quoi ton rôle lors de l'accouchement, de protéger la femme, de la laisser dans sa bulle pour lui permettre de sécréter les bonnes hormones lors de l'accouchement, parce que ça, on pourrait faire un podcast sur l'accouchement à un moment donné, mais tu sais, on est vraiment à côté de la traque présentement là, dans le monde de l'accouchement, dans les hôpitaux. Là, on est vraiment dans le sens contraire de valoriser des accouchements naturels, là, dans le fond, comme qui respectent le corps de la femme. Mais bon, tu sais, c'est un enjeu qui est vraiment grand parce que c'est une question de moyens gouvernementaux, là, tu sais, mais... Okay. Fait que, tu sais, on essaie du moins de, d'outiller les couples pour dire, bien, voici ce dont vous avez un peu le contrôle, parce que vous ne l'aurez pas beaucoup, puis c'est vraiment de encore une fois, c'est de responsabiliser les gens sur leur corps, tu sais. C'est voici comment ça se fonctionne, voici comment ça se pourrait que ça... que ça se passe, mettons, à l'hôpital ou quoi que ce soit. Voici tout ce que le conjoint peut faire pour protéger ta bulle, elle peut faire pour soulager, pour te supporter. Fait que, tu sais, moi, j'ai créé des cartes support d'accouchement aussi, là, 14 petites cartes aide-mémoire que la maman peut apporter à son accouchement pour se rappeler de respirer, des positions qui vont favoriser le placement du bébé. Mm-hmm. Fait que c'est ça, fait qu'on essaie vraiment d'avoir... c'est ça, des ateliers qui vont aussi toucher au couple. Okay. On en a beaucoup en lien avec les enfants, mais quand même aussi par rapport à l'accouchement du couple.
Ben, je suis content que tu en parles parce que personnellement, avoir vécu ça, la grossesse puis tout ça, là, j'ai eu l'impression de servir à rien.
C'est rien.
Je suis comme, ah ouais, je suis important. Au moins, on me donne mon titre rendu ouais. à l'hôpital pour dire papa, mais à part ça, je fais comme.
Ouais, bon, à part couper le cordon éventuellement.
Ah, je l'ai même pas.
Ah
même
bon.
J'ai même pas pu. J'étais arrivé en plein COVID, puis avec toutes les mesures qui sont arrivées. Ça a été rapide, c'est incroyable.
Non, puis il y a vraiment une belle place que le conjoint peut prendre lors de l'accouchement. Fait que c'est ça qu'on essaie de sensibiliser. On essaie d'être. Mm-hmm. C'est le rôle du kin, là, c'est d'être en amont. Fait que, tu sais, on est comme, qu'est-ce qu'on peut donner comme information pour prévenir que ça dégringole, pour prévenir, tu sais, on est là-dedans, tu sais, on essaie chez Bouja, juste, viens donc, si tu feel down, viens, ça se peut qu'on ait, on prévienne l'apparition d'une dépression postpartum. Tu sais, on est vraiment là-dedans.
Vous êtes comme ça. Un peu la zone tampon. En deux situations, disons. Là.
Oui, ouais, tout à fait. On essaie, moi j'ai toujours dit, Boujotte, on essaie de combler un trou dans notre système public. Tu sais, le système public n'a pas le temps. Tu sais, je veux dire, on voudrait... Moi, j'ai des suivis sage-femme, j'avais 1 heure et quart par rendez-vous avec ma sage-femme. Tu sais, j'avais le droit de pleurer, parler de ma vulnérabilité, dire qu'est-ce que je trouvais difficile, parler de mes inquiétudes, j'avais l'espace pour ça. C'est pas la réalité de notre monde hospitalier. Il manque de staff, il manque d'espace, Donc, on se dit, bien, si au moins on sensibilise la femme qui va accoucher, le couple, bien, ils vont pouvoir créer leur mini environnement dans cette grosse machine-là, tu sais, finalement.
Exact. Mm. Exact. C'est vraiment super intéressant. Je regarde mes questions ici. Là. J'avais vu aussi, il n'y a pas longtemps, là, on a beaucoup exploré aussi le domaine de la grossesse de la femme dans cette partie de sa vie. Mais tu as aussi ouvert, je crois, il n'y a pas longtemps, ou peut-être que c'était en processus, mais que ça n'a pas trop été annoncé, justement, que là vous êtes plus en train de toucher la clientèle périménopause, je crois.
Oui. Ouais.
Donc, ça, je trouve ça super intéressant. Puis si tu pouvais faire un petit pouce là-dessus, savoir à peu près s'il y a un parallèle à faire, c'est quoi en fait, vous, votre
la
rôle
vision,
pour
mettons.
Cette clientèle-là. Oui, ouais, la vision aussi, c'est un très bon point.
Tu sais, en fait, j'avais fait ça a fait 10 ans, Boujotte. Puis là, on avait une grosse réflexion, une journée de réflexion stratégique sur la vision, la mission, le placement et tout ça. Puis c'est comme si en brainstormant avec la stratège, tu sais, je me suis rendu compte que Boujotte, tu sais, on comblait un espace, un trou dans la clientèle où la femme, mettons, durant sa grossesse puis le postpartum, il y a vraiment des grandes fluctuations hormonales. Tu sais, c'est vraiment, le corps change énormément. Fait que là, ben, avec du recul, quand on a regardé ça, ben, tu sais, en jasant, c'est dit crime, tu sais. Il y a aussi la période de l'adolescence et il y a la période de périménopause où la femme vit encore des grands chamboulements hormonaux. Puis quand je dis hormonaux, ça veut dire que ça a un impact autant physique que psychologique, là, tu sais. Puis là, on s'est dit, ben, coudonc, tu sais, il n'y a rien à ce sujet-là. Il y a eu aussi Véronique Cloutier qui a lancé son reportage aussi par rapport aux femmes ménopausées, tu sais, qui accusait qu'il n'y a personne qui s'occupait d'elle, puis qu'il n'y avait pas beaucoup de médecins qui étaient au courant, là. Puis encore une fois, c'est pas qu'ils veulent mal faire, c'est juste que au niveau, c'est pas prioritaire. C'est comme si ça n'arrive pas avec des dans la formation continue des médecins, de s'attarder à cette clientèle-là. Là. Il y a comme juste un retard de priorisation. Fait qu'on s'est dit, bien, crime, nous, on essaie de ne pas rentrer chez Bougeotte sur ce que les autres font dans le gym. T'sais. Donc, on se distingue par de l'entraînement fonctionnel. Donc, on s'est dit, bien, on va s'occuper justement de ces femmes-là. Donc, j'ai une stagiaire, elle a fait une petite revue de littérature sur le sujet. Puis, tu sais, il y a des grandes fluctuations hormonales, il y a l'estrogène, les taux d'estrogène qui diminuent aussi. Ça impacte au niveau de la densité minérale osseuse, au niveau de la masse adipeuse. On sait que de plus en plus, les maladies cardiaques sont étudiées parce que on croyait que les femmes avaient moins de problèmes cardiaques parce que les études étaient faites sur les hommes. Donc, on se disait, voici des symptômes de problèmes cardiaques. Les femmes ne les ont pas. Mais là, on est en train de découvrir que les femmes, ce n'est pas les mêmes symptômes que les hommes. Fait que finalement, il y en aura peut-être beaucoup plus qu'on pense des femmes qui ont des troubles cardiaques aussi. Donc, là, on s'est dit, OK, bien, c'est toutes ces choses-là à travailler. On sait que la pression peut diminuer. Donc là, c'est quoi d'un entraînement fonctionnel pour une femme en préménopause? C'est surtout la préménopause, parce qu'une fois qu'elle tombe en ménopause, c'est différent aussi. Ça s'est stabilisé un peu plus au niveau hormonal. Donc, et on a commencé. On a lancé des cours et le parallèle à faire, c'est qu'elles ont besoin de parler. Et c'est la même chose que nos femmes enceintes, nos nouvelles mamans. Ces femmes-là, des fois, se sentent seules dans ce qu'elles vivent. Leurs médecins connaissent ça à moitié. S'ils n'ont pas d'amis dans le coin, c'est difficile à parler. Leur conjoint ne comprend pas. Donc, en fait, c'est encore de créer cet environnement-là pour que ces femmes-là qui vivent la même chose, un peu comme le pré-postnatal, puissent en parler sans tabou. T'sais? Fait que c'est une clientèle qui est super parce que ben, eux autres, ils ne se comparent pas ces médias sociaux. Ils sont vraiment comme ouvertes. Il n'y a pas de tabou.
Ils en ont vu, là. Ils ont vu des vertes et des pommes.
Exactement. C'est vraiment une belle clientèle. Fait qu'en enfant, on a commencé à Québec à l'offrir. Puis là, depuis janvier, toutes nos franchises offrent aussi nos cours. Fait qu'on a le Méno Active qui s'appelle, qui est un cours vraiment conçu là, cardiovasculaire, musculaire, travail d'équilibre et tout ça. Puis on a aussi là, créé un cours de pilates pour cette clientèle-là. Et ça va, on développe des cours. Là. T'sais, on en développe de plus en plus. Cet été, c'est sûr qu'il va y avoir de la marche sportive aussi avec ce groupe-là. Fait que c'est ça. On est vraiment. Je suis vraiment contente qu'on puisse, encore une fois, apporter quelque chose dans une clientèle qui n'est pas couverte beaucoup. T'sais.
OK. Puis c'est quoi les contraintes ou plutôt les choses à faire attention, on va dire, mettons, pour une femme qui est en préménopause et qu'on prédit qu'elle n'a pas nécessairement de limitation ou peut-être si tu en as sur la limitation, c'est quoi les points clés à prendre en considération pour vraiment bien outiller et bien, aider cette clientèle-là comparativement aux femmes plus jeunes puis grossesse, pas de grossesse?
En fait, c'est la réflexion qu'on va avoir dans les exercices qu'on va choisir. Tu sais, comme on va, mettons, au niveau, c'est sûr qu'on va faire attention au niveau de la pression aussi. Là, tu sais, la tendance à faire de la basse pression aussi avec ces changements hormonaux-là, les déséquilibres et tout ça. Fait que ça, on va faire attention à ces choses-là. Tu sais, on va faire aussi la densité, la masse musculaire va avoir diminué aussi. Donc, on va faire attention dans l'exécution des mouvements pour vraiment comme conscientiser dans la qualité des mouvements, ça va être super important. On va travailler en instabilité volontairement parce qu'on le sait que parfois, l'équilibre, ça va jouer un petit peu, ça va être plus difficile. Et on sait qu'il y a une densité minérale osseuse qui est diminuée, plus de risques de fracture aussi en vieillissant en général. Donc, tu sais, c'est comme toute la réflexion de on ne va pas faire des burpees, pitch-toi en bas, lève-toi debout. Tu sais, on va vraiment être plus dans aller travailler des groupes de muscles forts, mais aussi travailler au niveau des stabilisateurs. On sait qu'au niveau des chutes hormonales, bien, ça va avoir un impact aussi sur la tonicité des tissus. Tu sais. Fait que là, on retrouve un peu des choses par rapport, mettons, au pré-postnatal, où on va dire, OK, il faut vraiment travailler la musculature profonde parce que ça se peut qu'il y ait eu des gains au niveau de tout ce qui est plancher pelvien, qui a diminué les fuites, mais là, ça se peut que ça se reperde encore avec les chutes d'hormones. Donc, on va travailler encore au niveau du plancher pelvien, le transverse de l'abdomen, les muscles posturaux. On va rentrer de la mobilité parce qu'il y a beaucoup de tensions qui s'installent. L'arthrose, On va tout finir avec l'arthrose, là. Donc, on sait qu'avoir une masse quand même musculaire va être intéressante et de faire de la mobilité, ça va être super pertinent aussi. Fait que, tu sais, on veut les garder actives. Dans le fond, notre but, c'est qu'elles n'arrêtent jamais, mais on n'est pas dans, des fois, nos nouvelles mamans, on les rééduque, on les remet en forme, puis là, il y en a là, qui veulent pousser. Puis là, c'est de l'entraînement, là, que... Mais là, avec ces femmes-là, là, notre but, c'est pas qu'ils sortent en grande sueur puis qu'elles aient tout donné puis qu'ils se blessent. On veut qu'elles soient fonctionnelles, tu sais, dans leur vie, puis qu'elles ne se blessent pas, qu'elles puissent faire ce qu'elles veulent, qu'elles aient pas mal au dos à toutes les fois qu'elles se lèvent le matin. Tu sais, c'est... On vise du maintien, mais des gains, mais quand même du maintien dans leur activité de la vie quotidienne, là.
OK. Mais tu vois ça, justement, le principe de « Hey, j'arrive à me lever le lendemain matin sans avoir de douleur au dos. Hey, je me suis entraîné. J'ai commencé à m'entraîner, ça fait une semaine. Je sens pas encore que je suis raqué. » Tu vois déjà qu'en tant que professionnel, ça, les effets sont déjà là, puis le monde ne s'en rend pas nécessairement compte. Tu sais, la fameuse expression « no pain, no gain », tu sais, qui est encore assez présente.
Ouais.
Le monde s'attend à ça. Ils s'attendent à être courbaturé le lendemain quand ce n'est pas le cas, nécessairement.
Non, puis ça dépend. Là, ton but, si tu prends 20 livres là, en hypertrophie, tu sais, je veux dire, je pense que là, les objectifs sont vraiment différents, tu sais. Quand tu vieillis, tu veux rester en santé. Tu fais de l'activité physique pour éviter d'être malade, pour éviter d'avoir des maux, pour pouvoir jouer avec tes petits-enfants, pour, tu sais... Là, on n'a pas, en tout cas, nous, notre clientèle, c'est pas des marathoniennes, là. C'est vraiment des femmes qui, elles, veulent être actives, puis ils en mangent, là. Ils sont comme, mettez-nous plus de cours, là. Là, on organise des ateliers, initiation au TRX avec elles, puis tu sais, c'est vraiment, on leur offre quelque chose pour qu'elles puissent continuer d'être actives, puis de côtoyer des femmes comme elles, qui vivent la même chose qu'elles. Souvent, on voit dans des centres des cours, mais beaucoup plus vieux. Tu sais, des cours sur chaise, des cours, tu sais. Mais nous, on est encore dans... sont quand même en forme, là, les femmes. Et on veut le maintenir, ça, à travers, justement, les changements hormonaux, là. C'est vrai, on est vraiment dans le 50-60, nous, hein, avec ces cours-là.
Oui.
Puis ça, c'est pas beaucoup couvert, souvent. À part de l'aquaforme. C'est souvent ça. Les femmes enceintes disent que c'est ça, de l'aquaforme.
Mais l'aquaforme, ça fait pas tout, là, je veux dire. T'as même pas d'impact.
La densité minéraleuse, l'aquaforme, c'est bof, là, tu sais.
Ouais, tu sais, c'est bon pour la musculature, mais tu sais, il y a une limite quand même à ça. Là.
Ouais,
mais si tu aimes ça, tant mieux.
C'est ça. C'est pas mauvais.
Est-ce que, là, tu dis justement que vous ne traitez pas la clientèle plus athlète, mais tu sais, j'ai envie quand même qu'on en parle parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, tu sais, on donnait l'exemple, mettons, de l'haltérophile féminine, puis que tu sais, ou la CrossFit, puis qu'après sa grossesse, justement, elle n'a pas nécessairement les mêmes charges que quelqu'un, son activité modérée est différente d'une personne à l'autre. À ce niveau-là, au niveau que, tu sais, une athlète, on va dire, ben, c'est plus rare un peu qu'une femme de 45-50 ans aussi fasse de l'haltérophilie. Il y a quand même des compétitions pour les masters, disons, dans ce domaine-là, mais tu sais, ce serait quoi à peu près ton... si on va dans cette clientèle-là, exemple, juste pour faire un parallèle avec le dernier épisode, ce serait quoi à peu près tes ressentis ou plutôt tes recommandations ou plutôt ce que tu penses ce qui devrait faire attention?
Tu sais, dans le fond, parce que je ne sais pas si j'en ai parlé tant que ça, là, du postpartum immédiat, on en a-tu parlé? Je ne sais plus, mais...
Le postpartum immédiat?
Je vais résumer de toute façon. Ouais. Ça va être bon pour tout le monde. Tu sais, dans le fond, quand on a accouché, il y a des tissus qui ont été plus stressés que d'autres. C'est clair. Plancher pelvien, au niveau du périnée, les accouchements vaginaux, le bébé a passé par là. Il y a des stress qui sont là. Puis selon ton type d'accouchement, bien, il y a des stress plus ou moins grands. Césarienne, même chose. 7 couches de tissu. Bon, fait que tu sais, nos abdos puis le plancher pelvien, mettons que ça a été les tissus les plus stressés lors de l'accouchement. Puis, bien, il y a une phase de récupération naturelle. On le sait, n'importe quelle blessure, il y a une phase de récupération naturelle. Selon la gravité de ta blessure, ça va prendre plus ou moins de temps. Puis comme n'importe quelle blessure, on va faire de la mobilité au début, on va réactiver, on va travailler la proprioception, puis éventuellement pour justement déplacer le seuil de tolérance des tissus, tu sais, pour le repousser pour que notre plancher pelvien soit capable de plus en prendre, devienne plus fort. Et même chose au niveau des abdominaux, bien, on va commencer avec des exercices bien simples, puis on va augmenter au niveau de l'intensité. Bon. Donc, en postpartum versus mais même pendant la grossesse, c'est ça aussi. Moi, je dis tout le temps, il faut écouter les chaînons les plus faibles. Tu sais, ce qui va nous guider, c'est de respecter les chaînons les plus faibles. Donc, dans toute la rééducation postpartum, il n'y a pas de « je suis capable de courir, je ne suis pas capable de courir », mais c'est comme « OK, mais avant de courir, est-ce que tu as stressé les muscles de ton plancher pelvien de façon progressive pour te rendre jusque-là? » Puis au début, ça va être fractionné et tout ça. Puis c'est sûr que les hormones vont impacter au niveau de la guérison des tissus parce que notre taux d'estrogène faible peut nuire un peu à la guérison des tissus. Le manque de sommeil peut nuire aussi à la guérison des tissus. Donc, on a peu de récupération. Puis des fois, une femme qui n'était pas active avant ou qui était alitée ou peu importe, bien, elle a perdu de la masse musculaire. Fait que ça va être peut-être plus long à récupérer. Donc, il faut vraiment voir la grande image. Donc, en postpartum, notre haltérophile, selon son accouchement, selon ce qu'elle a vécu avant, selon son postpartum et tout ça, bien, ça va être vraiment une marche à la fois qu'elle va retourner où elle était. On parle souvent de crossfit et d'haltérophilie parce que c'est probablement les choses les plus stressantes pour le plancher, pour nos chaînons les plus faibles. T'sais, c'est l'augmentation de pression intra-abdominale, soulèvement de charge et tout ça. Fait que, tu sais, c'est beaucoup plus impactant pour un plancher pelvien que la course à pied, mettons. Fait que, donc là, si on pense à nos femmes en périménopause, il y a des chutes d'hormones aussi qui s'installent, un taux d'estrogène qui est plus faible, qui a des conséquences. Et ce n'est pas toutes les femmes qui vont avoir justement les mêmes symptômes. Il y a des femmes qui n'en auront pas de problème, il y en a qui vont avoir beaucoup de symptômes. Fait que ça va être juste, il va falloir elles aussi qu'elles écoutent les red flags, de dire est-ce que c'est trop pour ma carcasse, pour mes tissus? Est-ce que je suis une master et à toutes les fois que je fais un soulèvement de charge, j'ai des fuites? Tu sais, j'avais vu dans une formation qu'on donnait, on montrait une vidéo d'une compétition américaine de CrossFit, puis une gynécologue qui dit, parce qu'on voyait des flaques d'urine à côté des boxes des femmes, OK? Puis là, la gynéco, elle disait, c'est normal, mesdames, avec son micro, c'est normal, mesdames, d'avoir des fuites lorsque vous faites votre, vos performances et tout ça. Elle a été radiée, en passant, de sa profession. Parce que dans le fond, c'est... Ben oui, parce que c'est pas vrai que c'est normal. Puis d'augmenter comme ça tout le temps, de créer une augmentation de pression puis pas être capable de retenir. Fait que c'est trop difficile pour la musculature profonde. Il y a plein de risques, là. Il y a des risques de descente d'organes, il y a des risques d'avoir comme plus de problématiques en lien avec le plancher pelvien. Il y a vraiment une augmentation de risque pour plus tard. Elle a été radiée, c'est sûr. Donc, la femme en préménopause, qui est une super athlète, ça va falloir qu'elle adapte son entraînement. Sauf que la bonne nouvelle, c'est que des tissus, si on leur crée du stress de façon progressive, sont vraiment capables de se modeler. Ça demande de la constance et de l'adaptation. Fait que peut-être qu'il va falloir qu'elle diminue au niveau des charges, mais en étant constante, elle va être capable d'aller rechercher en faisant peut-être un travail spécifique au niveau, par exemple, si elle a des problématiques au niveau du plancher pelvien, elle va être capable d'aller en chercher. C'est pour ça qu'on dit la constance, c'est le mieux, plutôt que faire de la grosse performance, se blesser, la performance se blesser. Donc, ça va juste être d'adapter par rapport aux symptômes qu'elle va ressentir, mais il y a vraiment du potentiel. Dans le fond, moi, je ne suis vraiment pas dans la famille qui dit « Ah, il faut qu'on arrête ». C'est juste qu'il faut être intelligente, tu sais.
Donc, moi, si je comprends bien, tu sais, c'est le message est, mesdames, il y a des moments il y a des moments dans votre vie où ce qu'il y a une transition qui se crée entre telle étape et telle étape. Faut pas prendre ça à la légère, puis il faut ralentir la cadence pour éviter qu'il y ait des complications plus tard.
Faut s'ajuster, faut s'adapter, là.
Oui. Donc, si on donne l'exemple postpartum et préménopause, aussitôt que ces étapes sont faites de manière intelligente, comme tu dis, là, il n'y a rien qui empêche après ça d'augmenter un peu la cadence.
C'est ça. Exactement. Il faut juste se mettre au niveau, le seuil de tolérance des tissus, il est rendu là. Il faut juste mettre de la charge de façon progressive, puis ce qu'on veut éviter, c'est d'aller par-dessus, puis de l'écraser. Je te dirais que c'est... On peut vraiment faire un parallèle là, avec... c'est sûr qu'il n'y a pas l'impact hormonal, là, mais mettons quelqu'un, je dis tout le temps, quelqu'un qui se déchire le ligament croisé, là, puis là, il se fait opérer. Là. Mais après ça, là, on veut retourner jouer au basket. Mais tu sais, il va falloir qu'il fasse toutes ces étapes de rééducation. Puis il va falloir... Ce qui va guider, c'est il va commencer à courir en ligne droite avant de faire des changements de direction qui est plus stressant. Au début, il va peut-être avoir un attel ou quoi que ce soit. Mais ce qui va guider son sport, c'est la capacité de son genou à suivre. Puis plus il va prendre le temps d'en faire la proprioception sur son dynadis, puis d'en faire éventuellement des squats à une jambe, puis tu sais, d'en faire, il va aller chercher des gains, puis il va y aller. Fait Fait que c'est comme une évidence quand c'est un genou parce qu'il y a des protocoles. Mais c'est juste qu'il n'y a pas de protocole là, pour la femme qui accouche et tout ça. Mm-hmm. Donc, tu sais, parce que c'est beaucoup vaste, là, la femme, son accouchement est différent l'une à l'autre et tout ça. Fait que je pense que c'est juste de garder en tête qu'il faut respecter les chaînons les plus faibles puis bâtir mm-hmm. là-dessus, tu sais. Puis okay. après ça, sky's the limit, là.
Je ben oui, absolument. Mais c'est super intéressant pour vrai parce que ça permet de voir un peu cette perspective-là en tant que professionnel parce que quand on n'a pas ces informations-là en tant que personne, ben c'est toujours intéressant de s'outiller, quitte à débourser un certain montant, mettons, pour des formations, pour au moins avoir quelqu'un qui te dise ouais. quoi faire avec cette période-là puis comment t'adapter. Mmh. Oui. Prendre ça relax, disons, là. Tu sais, vraiment prendre ce moment-là pour toi pour que tu puisses te
réévaluer. C'est ça, c'est juste de,
oui.
de réajuster le tir. C'est vraiment ça. Mm-hmm.
Exact. Écoute, on continuerait longtemps, mais je pense qu'on a quand même bien discuté sur oui. deux aspects très importants. Mais je te remercie de ton temps. Encore une fois, si tu avais quelque chose à rajouter, peut-être pour terminer, je te laisserai le mot de la fin.
Bien, en fait, je dirais juste, mettons, s'il y a des kins hommes que des femmes là, qui écoutent, je pense que comme professionnels de la santé, on est ceux qui sont responsables de nommer les choses et de ne pas attendre tout le temps que la cliente le demande, mais d'être en amont pour nommer. Ces réalités-là qui sont parfois tabous. Donc, je pense que comme professionnel de la santé, oui, aller s'outiller dans ces sujets-là pour être à l'aise d'en discuter puis d'aller de l'avant envers les clientes. C'est comme ça qu'on va justement pouvoir plus en parler puis que ça soit plus un tabou dans notre société, ces phases dans la vie d'une femme.
Mm-hmm. Donc, pour les auditeurs qui nous écoutent, n'oubliez pas, bougez tes placotines références québécoises dans le domaine de la santé de la femme. Et sinon, je te remercie beaucoup, Sarah, de ton temps. Je te souhaite une bonne fin de journée et une bonne semaine à toi.
Merci, à toi aussi.